Dans la salle. Bonjour aux internautes. J'espère que tout le monde va bien. Ce matin, nous avons la joie de célébrer notre Seigneur Jésus encore aujourd'hui en toute liberté. Alors, je vous propose que nous puissions proclamer qu'on est passé de l'ombre à la lumière tous ensemble en chantant. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. T'adorer, chantons-le encore.
Tout en moi veut t'adorer.
notre Dieu, dans notre circonstance, qui peut l'arrêter? Sur nos situations. Je vous invite à proclamer ce prochain chant. Tu traces un chemin. Il est celui qui nous guérit, celui qui nous transforme, celui qui vient changer notre vie, celui qui vient changer une situation mauvaise et l'amène à une situation bonne pour nous.
Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses.
assurance que tu es là malgré tout. Ce n'est pas une question émotionnelle, c'est juste une question de vérité. Tu as dit que tu resterais avec nous jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tu es là. Nous voulons te glorifier ce matin.
Jésus a dit ceci, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. L'Église, vous, moi, qui croyons en Jésus-Christ, qui est notre Sauveur et Seigneur, nous le savons. Nous sommes au cœur de ce que la Bible appelle le combat spirituel. Combat entre la chair et l'esprit. Combat par rapport au péché qui veut nous éloigner d'une marche avec Dieu, d'une sainteté avec Dieu. L'Église et les disciples de Jésus, nous sommes toujours en tension entre ma volonté et la volonté de Dieu. Et ce matin, il y a un appel pour nous en tant qu'Église à prier pour les besoins. Mathieu Duchemann, qui est un membre ici de l'Église, qui est investi avec Dina depuis tant d'années, nous demande la prière ce matin pour Dina qui passe par un temps très très difficile. Un temps de combat contre la maladie et ça ne va pas fort du tout. Et ce matin, il y a cet appel à pouvoir prier avec tout le mystère de la souveraineté de Dieu à un moment donné, de dire « Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Et ce matin, nous voudrions prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. J'ai toujours cette pensée quand vient des moments de combat où je suis perdu dans le mystère de la souveraineté de Dieu, de me souvenir du roi David. Le roi David qui voyait son enfant dépérir et qui combattait, et qui combattait, et qui combattait, et qui combattait. Tant qu'il y avait encore un jour, il priait, il jeûnait. Et nous voulons être cette église qui combat, qui combat, qui combat. Cette église qui prie, cette église qui demande au Seigneur de se manifester, cette église qui demande au Seigneur d'agir. Et tant qu'il y a un jour, tant qu'il y a un souffle, nous serons cette église qui continuera de se battre. Et à un moment donné, nous sommes aussi cette église qui est là et dire, Seigneur, on ne comprend pas le mystère de ta souveraineté. Mais il y a encore un jour aujourd'hui. Alors je vais inviter toute l'Église à se lever, s'il vous plaît. Et qu'on puisse élever les mains vers le ciel ce matin. On ne sait pas de quoi demain est fait pour nos vies. On ne sait pas de quoi demain est fait pour la vie de Dina. Mais nous savons une chose. Nous continuons à prier parce que Dieu est au contrôle. Dieu est souverain. Alors nous voulons, tant qu'il y a un jour aujourd'hui, prier. Seigneur, nous te prions pour Dina maintenant. Et nous te demandons dans le nom de Jésus d'intervenir. S'il n'y a pas de miracle, Seigneur, eh bien, rien ne pourra se faire. Là, nous avons besoin d'un miracle. Alors nous demandons au Dieu des miracles que sa main soit posée, que sa souveraineté agissante accompagne Dina, accompagne Mathieu, accompagne la famille. Nous prions Saint-Esprit parce que toi, tu es capable au travers du tumulte, des séismes. Seul toi connais toutes choses. Alors nous invoquons le nom du Seigneur ce matin. Nous invoquons celui qui connaît le passé, le présent et l'avenir, celui qui est omniscient. Nous invoquons l'Éternel à qui rien n'est impossible encore ce matin. Nous te prions, Seigneur, qu'une intervention divine soit faite. Et nous prions selon ta souveraineté, te demandant, Seigneur, te confessant, Seigneur, te faisant connaître nos prières et nos supplications ce matin. Tu es celui qui accompagne tout le monde. Rien ne te fait peur. Aucune situation de la vie ne te fait peur. Tu n'es pas un Dieu qui se laisse ébranler. Tu es le Dieu inébranlable dans n'importe quelle situation. Alors accompagne, Seigneur, ce matin. Nous prions pour notre sœur, nous prions pour notre amie. Nous prions, Seigneur, pour Mathieu. Te prions pour les familles, Seigneur. Dans ce tourment, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Les mots nous manquent, mais nous voulons le dire encore et encore. Christ, Christ est notre vie. Christ est le Seigneur. Christ a toute autorité sur toute chose. Voilà notre confession ce matin. Et même quand je ne le sens pas, tu es là. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Alors agis, Seigneur, dans ta grâce, selon ta volonté, Seigneur. Même quand je ne le vois pas, tu es là. Saint-Esprit, environne la famille de manière palpable ce matin. Que la présence de Dieu soit vivante dans la vie de la famille de Dina ce matin, dans la vie de Dina ce matin. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, s'il te plaît. Manifeste-toi, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons le chanter ce matin. Même quand je ne te vois pas, tu es là, Seigneur.
Quand je ne vois pas, tu es là.
même quand je ne le sens pas.
Tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras.
Proclamons-le dans ce lieu.
Même quand je ne le vois pas,
tu es là,
même quand je ne le sens pas,
tu es là,
tu agiras
encore, tu agiras.
Chantons par la foi ce matin, même quand je ne le vois pas.
Même quand je ne le vois pas, tu es là.
Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras.
Même quand je ne le vois pas,
même quand je ne le vois pas, tu es là.
Même quand je ne le sens pas, tu es là.
Dieu opère des miracles avant même notre naissance, déjà dans le ventre de notre maman. La Bible nous montre que Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu des miracles, on le voit dans la Bible, quand tu es enfant, quand tu es adolescent, Dieu opère des miracles. Dieu est le Dieu des miracles quand on est adulte, quand on est une personne âgée. Il peut renouveler nos forces et Dieu est le Dieu des miracles. Et j'aimerais dire ceci parce que c'est très peu prêché parfois. Quand on est au seuil aussi, à l'extrémité de notre humanité. La Bible dit ceci, la mort est le dernier ennemi. J'aimerais vous dire quelque chose ici. La mort est un ennemi qui est vaincu en Jésus-Christ. Même dans la mort, Dieu fait un miracle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même quand on est dans le ventre de sa maman jusqu'à là, et même après, Dieu opère des miracles. Alors on voudrait juste encore s'unir une dernière fois en prière et on va continuer à louer le Seigneur. Seigneur, nous confessons que Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et le Christ que nous aimons, le Christ que nous adorons, le Christ que nous suivons, il a dit ceci. Il prend soin de nous, il nous connaît dès le ventre de notre maman et jusqu'à ce qu'il nous accueille dans l'éternité. Il a dit ceci, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est la confession de l'Église ce matin. Et dans tout ce laps de temps qui est là, nous continuons d'être une Église en prière qui combat, Seigneur, pour que le nom de Jésus soit élevé dans les rires comme dans les larmes. Parce que Jésus est présent du début jusqu'à la fin. Alors à toi toute la gloire encore ce matin. Église, merci. Merci de continuer à prier pour les besoins. Nous sommes une grande Église, nous avons aussi un nombre de besoins. Alors merci de rester dans cette dynamique-là et on va continuer à le faire avec la louange. Merci à vous, Église, que Dieu soit béni.
Amen. Restons dans sa présence, je vous propose de continuer à le glorifier. À jamais il a été, à jamais il est ressuscité, à jamais il est le roi des rois. Rappelons-nous sa mort et sa résurrection aussi, qui a été le point final de la guerre contre l'ennemi, de la guerre contre nous-mêmes, notre péché. Dieu a vaincu pour nous.
Thank you.
chantons Alléluia ensemble. Tu es le roi ressuscité qui a vaincu tout, tout à la croix. Et nous voulons se le rappeler encore ce matin. Tout, tout, tu as vaincu notre péché. Nous te glorifions pour cela. Merci pour cette résurrection. Merci Seigneur pour ta victoire.
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, l'agneau a triomphé.
Il est sorti du tombeau pour nous. Alléluia. Prenons ensemble, élevons nos voix ensemble et disons-lui merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que tu vas nous sortir encore aujourd'hui du danger. Tu nous sors du danger. Tu viens nous guérir. Tu viens nous transformer par ta puissance. Tu viens nous visiter. Tu viens nous visiter ce matin. Tu es là. Tu es présent parmi nous. Et nous élevons nos voix vers toi. Car tu es le Dieu Tout-Puissant qui a pu nous sauver de la mort éternelle. Alléluia. Nous voulons te rendre gloire. Unissons-nous dans la prière ensemble et glorifions celui qui est à jamais ressuscité. Alléluia.
Thank you.
jamais. Proclamons-le.
Seigneur nous dit, saluons-nous, bénissons-nous, peut-être juste avant pour continuer dans cette louange à Dieu, peut-être juste à droite, à gauche, saluer une personne et lui dire avec votre cœur que Dieu te bénisse. Souhaitez le bien, souhaitez le bien. C'est aussi un acte d'adoration, de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On est heureux de vous accueillir ici à l'EPI Église de Pentecôte internationale de Strasbourg, un temps de célébration, un temps de louange. On est très heureux d'accueillir des amis ce matin. Ils se reconnaîtront, on ne va pas les mettre mal à l'aise. Mais voilà, est-ce qu'on peut saluer des personnes visiteuses ce matin au milieu de nous, comme on sait le faire à l'EPI, on les applaudit, on ne va pas les mettre mal à l'aise, les lever ou quoi. Je pense à eux. Bienvenue aussi à vous qui êtes en ligne ce matin. Je suis très honoré de pouvoir vivre ce temps d'adoration, de célébration avec vous. Je m'appelle Mathieu, je fais partie de l'équipe pastorale et nous sommes des centaines ici à l'EPI à aimer Jésus. Alors parfois c'est bien imparfaitement, mais on aime Jésus de tout notre cœur. On veut continuer à avancer, à grandir avec lui. La semaine dernière et la semaine d'avant, vous vous souvenez, on avait écrit des témoignages « Dieu est plus fort » et plus de 326 témoignages d'enfants, d'ados, d'adultes, de papiers, de mamies, témoigner que Dieu est plus fort que la peur, Dieu est plus fort que la maladie. Il y a eu vraiment des témoignages à la gloire de Dieu. On va continuer à en parler. Et la vie de l'Église, c'est qu'aussi, il y a Dieu est plus fort et parfois Dieu consolateur. Des moments qui sont assez intenses pour nous. Et on veut vraiment prendre ce temps, toujours, de ne pas perdre de vue que l'appel à la prière de notre Seigneur, c'est très important. Très important pour ceux qui nous entourent comme pour nous. La vie de l'Église est ponctuée de différentes choses. Donc, j'ai différentes communications à vous faire ce matin. La première, c'est que vous avez toutes les informations sur les décisions que nous avons prises en tant qu'Église lors de notre Assemblée Générale, toutes les décisions d'orientation pour l'année à venir, c'est pas rien. On a décidé des choses ensemble et on va y aller. Si vous voulez, tous les résultats des votes que nous avons eus, elles seront affichées dans un instant, voilà, dans la grande salle, à l'espace affichage. Tout ce que nous avons vécu, vous pourrez aussi le demander, soit à l'espace vie d'église ou par mail, contact@epi-strasbourg pour vous tenir informé si vous n'aviez pas pu être là lors de cette Assemblée Générale. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les informations. J'en profite pour dire qu'à l'espace affichage, il y aura aussi le stand de Denis Morissette. Dans un instant, on va pouvoir vous le présenter. Est-ce que c'est encore nécessaire de présenter notre ami Denis Morissette, hein ? Il fait quasiment voilà, partie des meubles et de la famille, hein ? Voilà. Mais dans un instant, on aura l'occasion encore de prier pour lui. Donc, son stand avec ses bouquins de référence seront aussi disponibles au même espace. Donc, vous regardez les résultats et vous investissez pour une bonne santé spirituelle dans votre foi au travers de toutes les ressources de Denis. L'Église est ponctuée de temps de prière, des services, on est actif dans différents domaines et je suis très heureux de pouvoir annoncer qu'on va avoir une soirée de louanges avec Anne-Clémence Rouffet-Kantelberg qui va conduire une soirée spéciale avec nous, avec toute une équipe, une soirée de louanges pour chercher Dieu, chercher les fruits de Dieu, la présence de Dieu. Cette soirée de louanges aura lieu le vendredi 18 avril, donc ce sera ici. À partir de 20h. Donc, vous pouvez déjà noter cela dans vos agendas. On continuera à communiquer. Ce sera vraiment un temps pour notre âme. Peut-être même l'occasion pour quelqu'un de lui faire découvrir la louange chrétienne. C'est aussi un beau moyen de partager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Nous sommes aussi attristés par le départ de différentes personnes. La première personne, c'est Marie-Léone Banda-Bafio, que certains et certaines d'entre vous ont connue, qui est décédée. Et puis la cérémonie en mémoire de notre sœur aura lieu lundi 31 mars à 13h au centre funéraire, salle de cérémonie, donc à la Robertsau. Donc que Dieu renouvelle les forces de nos bien-aimés qui entoure aussi la famille. Voilà, on y sera avec le conseil spirituel pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Jésus qui s'est consolé aussi dans ces temps-là. Je voudrais en profiter pour remercier Jacques Lopal, le conseil spirituel, tous nos frères et nos sœurs qui prennent soin dans les visites, qui prennent soin de ces aspects-là. C'est tellement précieux. Donc voilà, merci de penser à prier pour la famille de notre sœur Marie-Léone. On voudrait aussi, on a eu les informations de la famille, donc on vous les communique, vous annoncer aussi le départ de notre frère Gilbert Higenbach, que plusieurs entre nous ont connu. Simplement, en résumé, laissez-moi vous expliquer comment l'église de l'Épi, ici, elle est née. Ça commence dans une maison, il y a trois sœurs qui prient, qui témoignent. C'est pour ça que nous, on aime bien la complémentarité des ministères. Pas de genre, ni homme ni femme, juste des gens passionnés de Jésus. Et dans ce groupe de maisons, il va y avoir un développement. Et c'était à l'époque la mission suisse-allemande qui a chapeauté un petit peu cela. Et à un moment donné, se posait la question avec la croissance. Mais c'est bien que ce soit plutôt les Français qui puissent prendre la suite de cette œuvre. Et une personne a été trouvée en la personne de Gilbert Higenbach, qui est vraiment fondateur de l'église de l'Épi dans la version qu'on lui connaît. Après, bien sûr, d'autres personnes sont venues apporter leur force, leur prière pour le développement de l'Église. Gilbert a été pasteur, évangéliste. Il a été aussi le responsable pendant de nombreuses années d'un centre de ressourcement spirituel qui s'appelle le Refuge. Et on est vraiment chacun et chacune au bénéfice de Gilbert. Pour la petite info, ma mère est venue au Seigneur par le biais de Gilbert Higenbach quand elle était enceinte de moi. Donc vraiment, c'est une grâce de Dieu. Beaucoup l'ont connu ici. Donc toutes les infos, je vais vous les donner aussi maintenant. Donc la cérémonie d'adieu aura lieu à Sochaux. Si vous voulez apporter vos mots de réconfort à Denise et à toute la famille, je ne sais pas où Xavier, si tu peux te lever. Xavier est actuellement le président du refuge. Donc toutes les personnes qui voudraient soutenir d'une manière ou d'une autre, il y a une cagnotte, il y a voilà, plusieurs moyens de soutenir la famille. Donc tu te tiendras à l'espace aussi stand-là, à côté de Denis. Comme ça, vous avez tout sur place. Vous avez Denis, les résultats, et vous avez Xavier. Donc n'hésitez pas à pouvoir laisser vos petits mots. Xavier transmettra tout ça à Denise et à sa famille. Je voudrais qu'on prie encore pour ces deux familles qui sont endeuillées ce matin. Et ensuite, on va prendre un temps pour écouter un message. À mon avis, Denis, le message arrive dans notre histoire d'église à point nommé. Non, je ne te mets pas de pression, t'inquiète pas. Non, Seigneur, on est tellement reconnaissant pour ton accompagnement. Merci pour notre sœur Marie-Léone. Merci pour ses encouragements, sa foi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli au travers d'elle. Merci parce que tu l'accueilles aujourd'hui dans ta présence éternelle. On veut penser à toute la famille, à cette cérémonie d'adieu qui aura lieu lundi. Que plusieurs puissent faire la rencontre avec le Dieu consolateur, le Dieu sauveur. On te prie aussi pour Denise, pour les filles, pour toute la famille Higenbach. Toi seul sais le nombre de fruits que Gilbert a pu t'offrir. Des vies changées, transformées. Tellement de personnes qui ont été au bénéfice du ministère de Gilbert, Seigneur. Nous voulons te remercier pour de tels exemples, des personnes passionnées de toi, passionnées de l'Église, qui ont pris soin des frères, des sœurs, qui ont pris soin de l'Église de Strasbourg pour qu'on devienne qui on est aussi aujourd'hui. Merci pour sa participation dans ce développement. On te prie aussi pour cette cérémonie qui aura lieu mercredi. te demande vraiment ta grâce. Je te demande vraiment, Seigneur, ton accompagnement. Voilà, merci pour tout ce que tu accomplis dans toutes les étapes de notre vie. Amen. Effectivement, j'ai oublié de vous préciser un peu avec les émotions. Donc, la cérémonie d'adieu pour Denis aura lieu pour Gilbert. Ouais, c'est les émotions. Pour Gilbert aura lieu le mercredi 2 avril à 13h. Voilà. Ça sera à Sochaux, mais vous avez toutes les informations avec Xavier. Désolé, un petit peu les émotions, hein, c'est fort. Denis, on est très heureux de t'accueillir ce matin. Merci pour tout ce que tu apportes à l'Église. Je te laisserai te présenter en quelques mots, mais je t'invite à venir ici, on va prier pour toi aussi.
Merci.
On est heureux, Seigneur, de pouvoir accueillir Denis ce matin. Merci pour toutes les fois où il vient et il nous apporte de l'encouragement, du conseil, des éclaircissements. Merci de bénir son ministère, merci de bénir la prédication maintenant, qu'elle soit une bouffée d'oxygène, une nourriture pour notre âme. Merci parce qu'il n'y a pas de hasard, rien n'est trop rapide pour toi, tu n'es dépassé en rien. Alors merci de bénir Denis, merci de bénir son épouse, ses enfants, et à qu'à toi revienne toute la gloire encore, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Sois béni, Denis.
Merci, Mathieu. Merci à toute l'équipe aussi. Merci. Dites-moi, vous vous êtes ennuyé un peu de l'accent québécois? Hein? Ce petit accent tellement charmant. Ouais. Je vais vous encourager à prier aussi pour le Canada. Si vous suivez un petit peu les nouvelles, les manchettes, on est malmené de ce temps-là. Pourtant, on est tellement gentil, tellement pacifique. Je ne sais pas pourquoi on veut notre peau, au moins notre pays en tous les cas. Donc, regardez-nous dans les prières parce que ça bouge. Mathieu en faisait un peu allusion. Toute la terre est comme un peu tourmentée en ce moment. On peut juste penser que bien, ça prépare quelque chose d'autre, mais ça peut aussi préparer un dénouement dans la vie de beaucoup de gens. Le titre du message ce matin, c'est « Libérer, délivrer, transformer ». Soyez rassurés, je ne prêcherai pas sur la Reine des Neiges et je ne chanterai pas la chanson, bien que vous entendez déjà la mélodie dans votre tête. Le message de ce matin, c'est un message d'encouragement, un message d'espoir. Les choses peuvent changer dans notre vie, mais non pas sans participation, sans notre participation, c'est ce qu'on va voir ce matin. Et si vous voulez, on va jeter un regard sur dans l'Évangile de Jean, sur un récit qui prend place, bien sûr avec Jésus, avec notre Sauveur, dont la vie d'un homme dont la condition était assez malheureuse en tant que telle. Et le texte va apparaître sur les diapos. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couchée une multitude de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Répétez après moi, 38 ans. C'est long, 38 ans, hein, n'est-ce pas? Donc, il était malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt cet homme retrouva la santé, il prit son lit et marcha. Je voudrais qu'on s'immerge un peu ce matin dans cette histoire, une histoire que vous avez déjà lue, que vous reconnaissez. Je vais aller un peu dans certains détails parce que souvent, lorsqu'on regarde un des miracles de Jésus, ou les miracles de Jésus plutôt, on a l'impression, quand on regarde ça en surface, de façon très rapide, un seul regard à partir de quelques versions, on ne voit pas tout ce qui prend place à l'intérieur de la situation. Alors, on va tenter de définir un petit peu la place, c'est de vous immerger un peu aussi dans ce lieu en particulier, parce que ça se passe dans un lieu très précis. Le texte mentionne, « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. » Les théologiens et les historiens semblent dire que l'endroit, à une certaine époque, était fréquenté par une élite, des gens de la haute classe de la société, Et peu à peu, au fil des années, comme c'est souvent le cas dans bien des lieux, l'endroit a perdu son prestige. Il semble que la piscine fut peu à peu délaissée, désertée, abandonnée. Il faut imaginer un peu la scène. Et à la longue, l'endroit a été squatté littéralement par les pauvres et demain un endroit où se retrouvaient les malades, les boiteux, que le texte qu'on a défini tout à l'heure, les paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, puisqu'il y avait on n'a pas trouvé l'origine de tout ce côté, est-ce qu'il y avait un ange où il y avait de l'eau, qui se passait quelque chose, mais il y avait une croyance qui était là, qui faisait en sorte qu'un ange venait de temps en temps, et le malade qui descendait le premier dans la piscine était guéri. Premier arrivé, premier guéri. C'est triste quand même. Essayez d'imaginer donc l'endroit qui a eu ses heures de gloire et qui maintenant est désaffecté, littéralement, et squatté, comme je le mentionnais. Vous savez, cela me fait un peu penser parfois à certaines églises, dans le sens qu'ils ont eu des années de faste, des années glorieuses, des années où la ville était présente, il se manifestait des choses. D'ailleurs, c'est le cycle de l'histoire de l'Église, des églises qui s'éveillent, des églises qui se lèvent, des églises qui se rendorment, des églises qui perdent un peu de vue leur mission. Et j'aime beaucoup cette pensée d'un auteur américain qui s'appelle McManus, qui a dit un jour, une foi, c'est-à-dire que la survie est devenue l'objectif suprême de l'Église, se maintenir, là, la survie. Nous avons perdu notre chemin. L'Église n'est pas appelée à survivre à l'histoire, mais à servir l'humanité. Comme pour chaque individu, il y a une différence entre vivre et exister. Il y a, dans ce contexte-là, une perception un peu de ce que devrait être l'Église, de ce que pourrait être l'Église. Et vous allez voir dans l'histoire, Jésus va venir un peu changer la donne. Parce que l'Église a une fonction en tant que telle. Et ce lieu, il va se passer quelque chose qui va s'éveiller dans ce contexte-là, du moins dans la vie de quelqu'un. Et vous rappelez-vous aussi que ce lieu est appelé Bethesda parce que c'est l'explication, c'est la maison de miséricorde, la maison où la grâce de Dieu peut se manifester. Et c'est justement ce qui va se passer dans les prochains instants au fur et à mesure de notre lecture. Donc, il y a un lieu très particulier. Et dans ce lieu, le texte mentionne qu'il y a plein de malades. Le texte, je le répète encore, sous ces portiques était couchée une multitude. Donc, ce n'est pas trois ou quatre personnes qui sont là couchées. Et là, il y a une description de malades, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendent le mouvement de l'eau. Ah, vous pouvez imaginer un peu, encore une fois, la scène de ces malades, de ces boiteux, de tous ces invalides, une espèce de communauté parallèle. Vous savez, c'est assez particulier parce que parfois, on se promène dans les rues, on voit un peu les maisons, mais c'est très rare qu'on peut se projeter ou s'imaginer un peu ce qui se passe derrière les maisons. Il y a quelques années de cela, à l'église, bien sûr, c'est une grande église, et il y a beaucoup de métiers, et il y avait un policier qui était là, son prénom c'était Éric. À toutes les fois qu'il me croisait, c'était un policier sur Montréal, dans un des quartiers les plus difficiles de l'époque, qui s'appelait Hochelaga-Maisonneuve. Et à toutes les fois qu'il me rencontrait, il dit, « Pasteur Denis, j'aimerais que vous veniez faire la patrouille de nuit avec moi dans Hochelaga-Maisonneuve. » Puis moi, poli, gentil, je lui disais à chaque fois, « Bien sûr, Éric, un jour, je vais y aller. » Mais il y a des gens dans les églises qui sont assez persistants et persévérants. Et arrive le moment où j'ai plus d'arguments pour repousser un peu ce moment-là. Et j'accepte, et un vendredi soir, de nuit, OK, je me rends au poste de quartier qu'on appelle, et il m'attend avec son collègue. Et là, je me retrouve dans un film américain. Alors, vous imaginez un peu dans les rues, les sirènes. Vous connaissez nos sirènes, nous, en Amérique, c'est des vraies sirènes. C'est pas le pimpon. Là, c'est quelque chose d'un peu plus mâle, un peu plus masculin, tout ça. Et son collègue, c'est un Italien, Tony. Et là, je suis presque à New York. Et Montréal, si vous êtes déjà venu, c'est quand même un petit peu une mini New York, là, OK? Donc, dans les rues avec l'autopatrouille et tout ça. Et là, j'assiste à ce que vivent les policiers dans un univers parallèle. Ce qu'on ne voit pas dans les centres commerciaux, ce qu'on ne voit pas dans les rues, on pénètre derrière, et là, il y a tout un univers qui s'est ouvert. Et bien sûr, je suis arrivé à la conclusion que notre monde allait véritablement très mal et qu'il y a une espèce de monde parallèle, de société parallèle qui n'est pas toujours visible, mais qui est bien, bien présente. Et dans ce contexte-là ici, ce monde-là a sa façon de voir, sa façon de concevoir, et imaginez que à chaque jour, ils font toujours la même chose. Ils attendent en espérant que quelque chose se passe ce jour-là. Encore une fois, premier arrivé, premier guéri, c'est pathétique comme situation. Mais ils sont là. Il y a quelque part dans ces lieux-là, quand les gens se retrouvent, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir qui naît. Vous savez, la dernière chose qui meurt chez un être humain, ce n'est pas le corps, c'est l'espoir. L'espoir que les choses peuvent changer. Et même, nous vivons d'espoir. On dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais moi, j'aimerais vous dire que tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie aussi. Et il y a un auteur qui s'appelle Tim Keller qui a dit un jour, grâce à Jésus, il y a toujours de l'espoir. Grâce à Jésus, et dans le contexte de ce matin des prières que Mathieu a prononcées tout à l'heure, il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres de notre vie. Vous et moi sommes des créatures inévitablement et irréductiblement orientées vers l'espoir. Nous sommes contrôlés non pas par la façon dont nous vivons maintenant, mais par ce que nous pensons qu'il se passera plus tard. Anticipation de quelque chose, on se projette avec la direction d'un dénouement potentiel dans la situation, peu importe ce qu'elle est. Donc, il y a un lieu très particulier. Il y a tous ces malades, encore une fois, cette société un peu parallèle, ce monde derrière le monde. Et il y a bien sûr un personnage qui va réémerger de cette histoire-là, qui va émerger plutôt de cette histoire qu'on appelle le paralytique. Le texte mentionne, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Vous vous rappelez, je vous ai fait répéter tout à l'heure 38 ans. Il y en a deux, trois qui ont répété. Les autres n'étaient pas encore là. Mais regardons un peu le contexte de cette personne. Premièrement, il est malade. Et là, on va faire une légère nuance dans la situation. Parce que souvent, dans nos Bibles, c'est marqué « guérison du paralytique ». En fait, le gars n'est pas vraiment paralysé, puisque le thème qui est là, c'est « esthénia », qui donne naissance en français au thème « esthénie », qui en fait est une forme de fatigue, une immense fatigue, une faiblesse du corps, comme un affaiblissement général d'un organisme. Au moment où je relisais mes notes ce matin, je repréparais ça, je pensais à des gens qui ont eu la COVID longue, là, qui sont plus capables d'avancer, de bouger et tout ça. Mais tant que je ne fais pas de lien, là, le texte ne parle pas de COVID, évidemment, ce n'était pas le cas à l'époque. Mais par une diminution de sa capacité, du pouvoir de fonctionner. Et parfois, ça me fait penser un peu à ce que vivent des gens face à leur vie. Fatigue de la vie, fatigué de la vie, de lutter, de combattre. Donc, il y a un homme qui est malade. Le texte mentionne qu'il est là depuis 38 ans, donc c'est un malade chronique, c'est un habitué de l'endroit, il est là depuis 38 ans, malade depuis 38 ans. Il est passif dépendant. Pourquoi? Parce qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine. Il s'attend à ce que quelqu'un puisse l'aider un jour, mais comprenez bien que dans la situation, chacun pense pour soi. Pourquoi j'aiderais mon voisin à guérir quand moi-même je suis là, malade, peut-être estropié, boiteux, peu importe la condition? Donc, il n'y a personne qui pour l'aider, puis il n'y a personne qui, en fait, de lui-même, il n'a même pas l'autonomie nécessaire pour se rendre même dans ce lieu-là. Donc, il est passif, dépendant, il dépend des autres pour son rétablissement. Et assurément, quand on regarde un peu le texte, on s'aperçoit qu'on peut imaginer qu'il est découragé, déprimé, dépressif, abattu, personne n'est là pour m'aider, pas d'espoir pour moi. Peut-être qu'il a vu les autres guérir ou une autre personne guérir, peut-être son collègue qui était juste à côté de lui qui a eu le temps de sauter dans la piscine. Mais lui, il est là, il est encore là, il est toujours là. Mais à quelque part, je voudrais vous rassurer qu'il a quand même la foi. Peut-être une foi usée, peut-être une foi fatiguée, mais il est là quand même à chaque jour, dans l'attente de quelque chose, dans l'anticipation que quelque chose pourrait se produire dans leur vie. Donc, à quelque part, il y a quelque chose qui est toujours éveillé à l'intérieur de lui. Peut-être un filet de foi ou d'espoir ou de conviction qu'un jour, ça va lui arriver à lui. Et dernier élément qui est intéressant, c'est qu'il est entouré de malades. Il a passé 38 ans avec des gens tout aussi éclopés que lui, tout aussi mal en point. Maintenant, je ne sais pas si je me doute que vous avez déjà été dans un cabinet de médecin. Quelle est la conversation qui prend place dans la salle d'attente d'un cabinet de médecin? De quoi les gens parlent-ils? Il y a presque parfois une compétition de maladies. Vous êtes ici pourquoi? Mais moi, j'ai un problème cardiaque. Moi, j'ai des ulcères. Moi, et à quelque part, il y a comme une espèce de registre de qui va avoir la maladie la plus grave. Et à quelque part, il y a une espèce de valorisation. En guillemets, là, je sais bien que les gens ne se valorisent pas, ne se glorifient pas de leur maladie. Il y a une espèce, surtout si les gens sont un peu plus âgés, c'est comme si toute leur vie tourne autour de la maladie, de leurs symptômes, de leurs médicaments, de leurs cachets. On est dans un autre monde, là. 38 ans, bien, d'autres sont aussi amochés que lui. Ça n'aide pas à motiver. Vous savez, à quelque part, c'est pas dans le cabinet de médecin qu'on ressort de là. Ouh, ça m'a tellement fait du bien ce matin d'aller chez le médecin. Ah, ça me fait du bien. J'aime ça. Je vais y retourner le plus souvent. Bien sûr, on ne pense pas comme ça. Donc, il y a un lieu, il y a des malades, il y a ce paralytique-là, mais il y a un personnage qui va bien sûr émerger tout ça qui s'appelle Jésus. Jésus vient là. Pourquoi Jésus vient-il à cette place? Parce qu'en fait, Jésus est en voyage, il est en déplacement, il s'en va vers Jérusalem où il y a une fête religieuse. Alors, pourquoi Jésus passe par là? En fait, c'est une mauvaise question. Parce que la véritable question qu'il doit se poser, c'est pas pourquoi il vient là, c'est pourquoi il ne viendrait pas là, parce que c'est sa mission dans la vie. Jésus n'est pas venu sur terre pour venir faire la fête. bien qu'il soit dans un contexte religieux, il n'est pas venu célébrer, il est venu exercer un ministère. Et c'est ça qui est fascinant dans sa vie. On connaît le texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 4. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, parce qu'il m'a appointé. Voici ma mission. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. » Jésus, à ce moment-ci, fait ce qu'on pourrait qualifier un coming out. Jusqu'à ce moment-là, dans le temple, il était anonyme. Et là, ce jour-là, c'est lui-même qui choisit, qui prend le livre, le rouleau du livre d'Isaïe, qui recherche où est indiqué ce texte, au chapitre 61, le verset 1. Et là, il va dire, aujourd'hui, cela se réalise avec moi. Intéressant, n'est-ce pas? Et comment on pourrait qualifier dans un langage plus moderne ce qui va prendre place? La prochaine diapo, je vous ai mis l'énoncé de mission de Jésus en cinq termes, bien, bien simple. Il est venu prêcher, il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Est-ce que vous vous êtes déjà interrogé, vous allez me dire, ça prend juste Denis pour commencer à penser comme ça peut-être, qu'est-ce qui fait d'une nouvelle une bonne nouvelle? Il y a des nouvelles, mais il y a une bonne nouvelle. Alors, pour qu'une nouvelle soit une bonne nouvelle, il faut qu'elle soit précédée de quelque chose. Je reviens chez le médecin, vous êtes au cabinet du médecin, vous attendez de voir le toubib, et là, vous êtes un peu anxieux parce que vous avez passé des tests, échantillons sanguins, tout ce qu'on peut imaginer, et là, d'un coup, la porte s'ouvre, et votre nom est appelé, et là, vous êtes ambivalent entre est-ce que ce sera une mauvaise nouvelle ou est-ce que ce sera une bonne nouvelle. Et à partir du moment où vous arrivez devant le médecin et vous dites « j'ai une bonne nouvelle pour vous », pourquoi? Parce que vous anticipez une mauvaise nouvelle. Laissez-moi vous dire que nous sommes en ce moment, peut-être plus que jamais, du moins dans notre époque, entourés de mauvaises nouvelles et les gens ont désespérément besoin d'une bonne nouvelle parce que la bonne nouvelle va annuler la mauvaise nouvelle. Or, Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux gens. Et c'est ça qui suscite l'espoir. Il est venu prêcher, il est venu penser, c'est-à-dire apporter la guérison, guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent émotionnellement, spirituellement, apportant la guérison et la restauration. C'est le but de sa mission sur terre. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et il vient libérer justement à la fois ceux qui sont captifs, mais aussi ceux qui sont aveuglés par la vie, redonner pas simplement une vue physique, mais aussi une vue spirituelle, de voir les choses, de discerner différemment. Il est venu aussi promulguer la liberté comme quelque chose. Le thème qui est là, c'est apostello, c'est comme une annonce, c'est comme un édit qui est émis, comme s'il ordonnait aux gens, maintenant, vous êtes libre, je vous annonce une bonne nouvelle, vous êtes libre, maintenant, je proclame votre liberté, votre émancipation, et c'est terminé l'esclavage et tout ça. Il vient libérer ceux qui sont sous l'oppression. Et c'est à cela qu'il faut s'attacher. Et dernièrement, il est venu publier un temps de grâce. Et ce temps, il est toujours présent. C'est une parole qui vient du passé, mais qui se prolonge jusqu'au retour de Jésus, publier un temps de grâce, une année de grâce. Intéressant, n'est-ce pas, de savoir que Jésus est venu pour cela. Cherchons pas ni à gauche ni à droite, mais une explication. Voici ce que Jésus nous fait. Il était appointé pour cela. Maintenant, revenons un peu à ce qui prend place dans cette situation. Dans la séquence qui survient ici, Jésus va faire trois choses. Et là, je pense en termes de comment la situation s'est dénouée pour ce gars-là, dont on ne connaît pas le nom. Premier élément caractéristique, c'est que Jésus prend l'initiative. Le gars ne bouge pas, le gars ne fait rien. Le texte mentionne Jésus l'ayant vu couché, Jésus le voit parmi les autres, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, sachant déjà que ce gars-là est là depuis un bon moment, donc Jésus va prendre l'initiative. Ce gars-là n'est pas venu vers Jésus, ne l'a pas interpellé, ne l'a pas appelé comme dans d'autres miracles où je pense à la femme qui avait une perte de sang qui est allée vers Jésus ou de Bartimée qui a crié « Jésus, fils de David ». Ce gars-là est complètement passif et c'est Jésus, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? C'est lui qui entame le dialogue, c'est lui qui initie encore une fois, c'est Jésus qui l'interpelle. J'aimerais vous dire ce matin que c'est la même chose pour chacun de nous. Est-ce que nous avons les oreilles suffisamment ouvertes pour savoir, discerner, pour entendre que Dieu nous interpelle constamment? Dieu veut nous parler. Le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, c'est un Dieu qui s'exprime. C'est un Dieu qui nous interpelle à chaque moment de notre vie, mais souvent on est tellement occupé par tellement d'autres choses autour de nous qu'on oublie. La Bible nous dit, et c'est encore une fois, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Il y a cette relation d'un Dieu tellement, on l'imagine parfois très grand, immense et tout ça, mais tellement proche à la fois qu'il connaît ce qui se passe, même avant que nous puissions commencer à lui demander. Donc, Jésus prend l'initiative, mais en second lieu, il y a quelque chose qui est intéressant. Et là, suivez-moi bien. Jésus va poser une question directe. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant, encore une fois, qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu retrouver la santé? » Bon, dans beaucoup de versions, vous avez « Veux-tu être guéri? » Mais le vrai sens du texte, c'est « Veux-tu être rétabli? » En anglais, on dit « Make whole. » Veux-tu être rétabli à un état de fonctionnement maximal? Donc, Jésus lui demande, « Veux-tu être guéri? » Pas veux-tu que je te guérisse, mais qu'est-ce que toi tu veux? Et la subtilité de la phrase, c'est que l'enjeu n'est pas mis tant sur Jésus que sur ce que lui veut. Veux-tu retrouver la santé? Veux-tu être mieux? Encore une fois, le sens ici, c'est le rétablissement. Veux-tu que ta vie change? Veux-tu qu'il se passe quelque chose? Qu'est-ce que tu veux au juste? Une question bien simple qui devrait en principe appeler une réponse bien, bien simple. Laissez-moi juste un peu imaginer ce qui pourrait prendre place. Là, on va un peu mettre ça dans un contexte contemporain, un peu actuel. Veux-tu être guéri? Lui demande Jésus. Et l'homme étonné réagit un peu, énervé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait 38 ans que je suis ici, puis tu me poses la question, est-ce que je vais être guéri? Et là, il se met à râler, à blâmer. Moi, je dis souvent à ma femme, ma chérie d'amour, il y a toujours quelqu'un à blâmer. Il s'agit de trouver la bonne personne. Ah, il demande des gens qui ne l'aident pas pour aller dans la piscine et tout cela. Et la réalité, c'est que... Et là, il râle encore plus. Personne ne m'aide à jeter l'eau au bon moment. Est-ce que vous voyez des humains dans tout ça qui sont toujours en train de chercher la cause et la réponse à l'extérieur d'eux-mêmes? OK? J'en ai ras-le-bol d'être couché ici et tu me demandes si je vais être guéri? J'imagine Jésus lui répond, oui, 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 c'est justement ce que je te demande. Qu'est-ce que tu veux au juste? La réponse semble évidente, mais elle ne l'est pas. Pourquoi Jésus pose-t-il cette question sachant toute chose d'avance? Premièrement, Jésus veut savoir ce qu'il veut réellement et ce qu'il est prêt à être guéri. Ça paraît simple, mais je vous l'ai dit, connaissant les êtres humains, et croyez-moi, j'ai passé des années à avoir des entretiens avec les gens, la réponse est pas, elle peut être semblée évidente pour nous, mais elle ne l'est pas toujours pour les gens. La guérison de cet homme ne se limite pas simplement à une guérison physique, mais aussi une dimension plus spirituelle dans tout ça. C'est un appel à la transformation intérieure. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. C'est une invitation à prendre une décision consciente en regard de sa vie, en regard de sa condition. Et en second lieu, Jésus veut l'amener à prendre conscience de sa propre volonté, pas la volonté de Jésus, mais la volonté du gars, et de sa responsabilité dans le dénouement de ce qui prend place dans sa vie, dans sa condition. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Trop souvent, les gens sont dans un état de victimisation ou de passivité. Jésus veut le pousser à réfléchir. Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu pour ta vie? Et enfin, Jésus donne l'opportunité à cet homme de répondre, d'exprimer son désir, de dire les choses, de faire un choix. Et c'est toujours le cas pour chacun de nous. Vous savez, on n'est pas passif dans notre vie. Si la vie est une pièce de théâtre, si votre vie est une pièce de théâtre, je vous annonce que vous avez le premier rôle, le rôle principal. Ce n'est pas Dieu qui va agir à votre place. C'est vous. Dieu a écrit la pièce, Dieu l'a produit, mais c'est vous qui devez la jouer. C'est notre vie, et c'est ça notre vie. Donc, cette question que Jésus pose, c'est une question qu'on doit se poser, vous et moi, tous et chacun ici ce matin. Vais-je continuer à vivre encore et encore des années de cette manière? Est-ce que je veux rester empêtré dans ces fameuses habitudes nocives? Est-ce que je vais encore me comporter, râler, m'emporter tous ces comportements destructeurs et ces conduites malsaines? Est-ce que je vais continuer encore à souffrir longtemps à l'intérieur, torturer à l'intérieur et à faire souffrir les gens autour de moi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de ma condition? Est-ce que je vais continuer encore une fois à nourrir ce ressentiment pendant des semaines, des mois et des années? Qu'est-ce que je veux? Maintenant, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est pas seulement que Jésus pose une question. Parce qu'en fait, sa question, elle est bien simple. Veux-tu être guéri ou veux-tu être rétabli? Regardez-moi ici un instant. Si la question qui est posée, veux-tu être guéri, à mon avis, à moi, corrigez-moi si j'ai une mauvaise perception, il y a deux réponses possibles. Quelles sont-elles? Oui ou non? Mais le gars, il ne répond même pas à la question. Il réussit à je prends le texte. Le malade lui a répondu, Seigneur, à la question simple qui nécessite qu'un oui ou un non, il répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il ne répond pas à la question. Et vous savez, ça, c'est humain. Les gens trouvent des explications, des justifications, mais vous devriez savoir que ça fait longtemps que je suis dans cette condition. Le gars est à côté de la plaque constamment et Jésus est là, là, OK? Cet homme ne répond pas à la question. Il parle, il explique, il justifie, il en parle, il en rep... En fait, il se trouve des excuses pour justifier, pour expliquer le fait qu'il est encore là, comme à quelque part, s'il était responsable du fait qu'il est toujours là. J'aimerais vous dire ce matin, c'est son cas à lui, la solution n'est pas dans les autres. Il va dire, je n'ai personne. Comme si encore une fois, son attente est placée vers les autres. Et là, il justifie un autre descend en moi. Peut-être que devant Jésus, il s'attendait à ce que Jésus, c'est toi qui pourrais m'aider à aller dans la piscine. Parce qu'en fait, il croit encore que la solution est dans la piscine. Son obsession, sa fixation, c'est sur la piscine. Jésus est là devant lui, mais lui pense à la piscine. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est que Tom croit que la solution demeure encore dans la piscine malgré le fait que Jésus, il est là. La piscine, comme lieu de miracle en tant que tel, ça ne change jamais rien dans sa vie. Mais lui, il regarde Jésus devant lui et lui, il regarde de côté la piscine. Et c'est encore une fois un phénomène purement humain où on regarde à côté de la solution au lieu de regarder à la solution potentielle, possible. Et, je dirais troisièmement, la solution n'est pas en dehors de lui. Et c'est là que Jésus va l'interpeller, parce que c'est quelque chose qui doit changer à l'intérieur de lui. Maintenant, suivez-moi bien encore. Peut-être que vous allez reconnaître certaines personnes. À la longue, quand ça fait 38 ans que tu es dans une même condition, s'installe à l'intérieur un discours. On se parle dans notre tête, hein? Un discours disqualifiant, un peu comme un interdit, comme une forme de résignation, un blocage à l'intérieur de soi qui fait qu'à quelque part, c'est à l'intérieur que ça doit se dénouer. Après toutes ces années, en fait, cet homme-là, son infirmité est devenue son identité. Je suis malade. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis malade. Et on a une compréhension de ce phénomène-là, on appelle ça habituation. L'habituation fait référence au processus, suivez-moi bien, par lequel une personne s'habitue progressivement à son état au point de ne plus ressentir le besoin de changer. Je suis ce que je suis comme ça, ça a toujours été comme ça, ça va toujours être comme ça. Voyez-vous l'enjeu qui prend place dans la question que Jésus lui pose? Il y a tout ce travail-là à l'intérieur. Mais Jésus savait bien que cet homme-là est valide. Jésus est conscient de cela, et sans espoir, mais il devait accueillir favorablement le défi que Jésus lui lançait. Et c'est là que je parle de participation. Il savait que s'il répondait à la question de Jésus, « Lève-toi et marche », sa vie basculerait dans ce que j'appelle le beau côté de la vie, le bon côté de la vie, au lieu d'être dans cette situation. Mais le voulait-il vraiment? Le voulait-il vraiment? Vous savez, il est facile de présumer de la réponse dans une situation aussi dramatique que la sienne. Mais j'ai passé, vous savez, 40 ans à aider des gens. Et c'est fou comment il y a des gens qui ne réussissent pas à voir ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a un petit mécanisme chez les êtres humains qu'on appelle le déni. Pas denier, là, mais déni. Et je pense que je l'ai déjà mentionné ici précédemment, une fois passée. Le déni prend deux formes. Il y a un déni qui est conscient. Je ne veux rien savoir, je ne veux pas voir. Je pense à cela dans le cadre des mariages. C'est toi le problème, c'est pas moi le problème. Arrête de me rabattre les oreilles avec tout cela. C'est ta mère, c'est toi. Voyez-vous, je ne veux pas voir. Là. Je me positionne pour ne pas voir. Ça, c'est très, très conscient. Puis il y a plein de gens qui, dans la vie, sont en fuite, en évitement constant face à la réalité de ce qui devrait changer dans leur vie. Mais il y a aussi un déni inconscient, c'est-à-dire que la personne ne voit pas. Quelqu'un a dit un jour, c'est pas qu'il ne voit pas de solution, c'est qu'il ne voit même pas le problème. Est-ce qu'on peut régler quelque chose qui n'est pas là, ou qu'on ne voit pas là, ou qu'on est convaincu qu'il n'est pas là, qu'en fait, tout le monde autour le sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Alors, c'est tout ça qui prend place ici. Mais Jésus, vous savez, va tenter de faire bouger ça toujours à partir de cette première question. Gardez à l'esprit quelque chose de dramatique et de malheureux entre changer et ne pas changer, les choses ne changeront pas. La résistance au changement, la difficulté à changer, c'est probablement un des plus gros combats de la nature humaine. Pourtant, l'essence du christianisme, c'est la transformation de la personne humaine. Jésus est venu changer des personnes et changer des vies, nous transformer, nous libérer du péché, de nos mauvaises conduites, de nos comportements, de notre façon de voir. C'est tout cela qui doit être transformé dans notre vie. Je ne pourrai jamais avoir la vie que Dieu a pour moi, à moins que je devienne ce que Dieu veut que je sois. Parce que ma vie, c'est une expression de qui je suis. C'est une projection de qui je suis. C'est moi qui la gère, ma vie. Alors, j'ai besoin que Dieu me transforme pour que ma vie devienne ce que lui veut qu'elle soit. Regardez bien un peu la pensée. Prochaine diapo. Entre la proposition de Jésus, veut être guéri, entre la proposition et la réaction ou la réponse, il y a un espace. Entre la question et la réaction à la question, il y a un espace là. Et dans cet espace se trouve notre capacité de choisir notre réaction. C'est dans celle-ci, dans cet espace, dans cette capacité, c'est-à-dire que se trouve notre progression, notre liberté. On a quand même quelque chose à faire face à notre condition. Veux-tu être guéri? Veux-tu être rétabli? Veux-tu que ça change? Laissez-moi vous donner une expression purement québécoise. Je ne sais pas si Jérôme t'a déjà entendu quand tu étais au Québec. Si j'appelle un vieux pote, que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, je vais prendre des nouvelles de lui, je vais l'appeler, disons qu'il s'appelle Pierre. Salut Pierre, ça va? Oh, plus ça change, plus c'est pareil. Une expression purement québécoise. Vous avez déjà entendu, Jérôme? Plus ça change, plus... Mais c'est quoi? Ça vient d'où, cette expression-là? Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne veut rien dire. Ça veut vraiment dire qu'il n'y a jamais rien qui bouge, il n'y a jamais rien qui change. Puis encore une fois, je reviens à cette notion. Entre changer et ne pas changer, les choses vont rester sur place. Or, il faut que les choses bougent. Entre la proposition et la réaction, il y a ma décision puis il y a mon passage à l'action. Dernière séquence de cette histoire, Jésus va donner un ordre. Presque comme s'il coupait la parole au paralytique, à cet homme qui est impotent. Lève-toi. Lui, le gars est en train d'expliquer pourquoi il n'y a personne qui n'est jamais guéri, parce qu'il n'y a personne qui l'amène à la piscine. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là, c'est intéressant parce que là, il va bouger. Le texte mentionne qu'aussitôt, l'homme fut guéri, prit son lit et marcha. Il n'y a aucune hésitation à ce moment-là. Il a saisi l'opportunité. Là, il a saisi. Il ne s'est pas mis à contester Jésus. Ouais, je voudrais bien me lever. Moi, ça fait 38 ans que je n'ai pas marché. Là. Est-ce qu'on peut marcher 38 ans? Et s'il y a des gens qui sont des médecins, qui travaillent dans les hôpitaux, les muscles sont atrophiés après 38 ans. Là. Ça n'a pas bougé, ça. Mais le gars se lève, OK? Et il n'y a aucune hésitation entre l'injonction de Jésus, parce que c'est une injonction. Jésus ne lésine pas, là. C'est presque un ordre, c'est presque un commandement. Lève-toi et vas-y. Ça signifie qu'il y a un prix pour le changement dans notre vie, et ce prix, c'est l'obéissance et le passage à l'action. Peut-être qu'au fil de votre vie chrétienne, vous avez été exposé à une certaine passivité spirituelle. C'est-à-dire, voici comment je pense. Beaucoup de gens attendent après Dieu sans réaliser que c'est Dieu qui attend après eux. Lève-toi. Lève-toi. Fais quelque chose. Mets cela en pratique. Fais cela et tu vivras. On a une participation, mais c'est probablement une façon... On a tellement été enseigné par rapport au salut sans les œuvres et par la foi, la grâce, mais c'est vrai, c'est toujours aussi vrai. Mais à quelque part, on doit prendre une décision dans notre vie face au déroulement, face à tous les dénouements qui doivent prendre place dans notre vie. Et c'est cela qui prend place ici. Ce genre de récit doit devenir une source d'inspiration pour vous et pour moi, pour chacun de nous. Une fois que nous abandonnons notre vie entièrement à Dieu et à sa volonté quant à notre destinée, nous lui permettons de faire son œuvre en nous. Je vais vous annoncer quelque chose, je vais raconter quelque chose que personne, pas beaucoup de personnes savent, mais il y a un mois, un petit peu plus qu'un mois, 5 semaines, j'ai fêté mon 50e anniversaire, non pas de naissance, mon 50e anniversaire de nouvelle naissance. 50 ans à suivre le Seigneur. Je ne vous dirai pas à quel âge je me suis converti, parce que vous allez vous préoccuper de mon âge plus que du message que je vais vous transmettre. Vous êtes déjà en mode. Quel âge tu penses qu'il a? Hein? L'arrêté, c'est pas là la question. La petite question, c'est que vous savez, quand on prend de l'âge puis on a un long parcours, ça arrive qu'on réfléchit. Et je me souviens, je peux vous donner la date, c'était le 14 février 1975. Et le 14 février, d'ailleurs, je voudrais vous annoncer une nouvelle importante. Ce n'est pas la Saint-Valentin. C'est mon anniversaire de naissance. Donc, vous serez à l'avenir, vous m'envoyez des cadeaux au Canada. Je vous laisserai mon adresse à la fin. L'idée, c'est qu'on était en train, avec ma bande de copains, de fêter mon anniversaire. OK? Parce qu'on avait une espèce de fonctionnement dans notre bande de l'époque. Celui qui était fêté, c'était gratuit pour lui. La bière coulait à flot, l'alcool coulait à flot. OK? Et là, on avait tous hâte à notre anniversaire. Hein? C'était pas tant l'anniversaire que l'occasion de s'éclater, littéralement. Mais il n'est pas rendu 9 heures le soir que je suis déjà complètement bourré et insensé et irréfléchi. J'ai provoqué une bagarre dans un bar, OK? Et j'ai subi la raclée de ma vie, OK? Je suis tombé sur le mauvais candidat. Okay? Je suis tombé sur le responsable des Hells Angels. Si vous les connaissez, c'est les bâtards criminalisés au Québec. La raclée de ma vie, je me suis retrouvé dans le fond d'une voiture, le nez fracassé. Okay? Je suis certain que j'étais foutu. Et là, je n'irai pas plus dans les détails. Hein? Je n'ai pas besoin de connaître le sang qui a coulé et tout ça. Mais je m'en suis sorti. La preuve, c'est que je suis ici. Okay? Mais dans les jours qui ont suivi, Dieu a commencé à m'interpeller. Okay? J'ouvre le journal, ça parle de Dieu. J'ouvre la télé. Ça parle de Dieu. Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en viens dedans. Je ne sais pas si les coups que j'ai reçus au cerveau, le nif. OK? Puis j'entends parler d'un de mes amis qui était rentré dans une secte religieuse. Ah! Je vais l'appeler. C'est quelqu'un que je connaissais bien. Et ce gars-là a commencé à me témoigner. OK? Mais là, j'étais tellement mûr. J'étais un fruit mûr. Là, OK? Et il se met à témoigner. Et il me connaissait bien aussi. Il connaissait ma vie. Il connaissait. D'ailleurs, Lucie a eu ses incartades comme moi dans toutes sortes de situations. Puis là, il me présente Jésus, puis moi, j'hésite. Ouais, ouf, je sais pas, là, écoute, c'est un point. Puis là, il me dit, Denis, est-ce que tu as quelque chose à perdre? Regarde de toi, puis regarde ta vie. Est-ce que tu as quelque chose à perdre? OK? Je voudrais vous dire quelque chose ce matin. Je n'avais rien à perdre, mais je tenais à mon rien. Je ne voulais pas lâcher quelque chose qui n'était même pas là. Comment on peut être tortueux et torturé dans notre esprit? Là, je vois qu'il insiste. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. J'ai absolument rien à perdre. Mais pourquoi tu ne te soumets pas? Pourquoi tu ne t'acceptes pas? OK? Et là, il y a un combat. Évidemment, c'est un combat spirituel à l'intérieur de soi. Mais je tiens. J'ai peur de perdre quelque chose, mais j'ai rien. OK? Comme si je t'attachais à quelque chose qui n'est même pas là. Hein? L'espèce de vide de ma vie, tout ça. Bon, l'histoire le témoigne maintenant. C'est que j'ai arrêté de combattre ce jour-là. Et je donnais ma vie à Jésus, et ma vie était, Dieu m'a touché sur l'instant, paf, foudroyé littéralement, positivement, puis l'histoire, c'est la suite de toutes ces 50 dernières années. Maintenant, regardez bien cette pensée, sur la prochaine diapo. Lorsque nous abandonnons notre vie à Dieu, nous découvrons que ses plans pour nous dépassent de loin tout ce que nous aurions pu imaginer pour nous-mêmes. Est-ce que vous croyez que le 14 février 1975, je pouvais m'imaginer que des années plus tard, je serais ici à Strasbourg à Lépi? Que je tournerais partout? Est-ce que Dieu ferait de ma vie quelque chose de tellement merveilleux dans ma vie? Croyez-vous que on ne peut même pas s'imaginer cela. On vit avec le temps présent, les petits moments. On est difficile de se projeter. Et c'est là que Dieu intervient. Il sait qu'il peut nous amener beaucoup plus loin que notre propre champ de vision. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il y a beaucoup de croyants, je ne dis pas ça pour culpabiliser, qui passent littéralement à côté de la vie parce qu'ils négocient constamment avec Dieu. En trouvant des explications, des justifications. Il faudrait comprendre mon contexte, il faudrait que tu comprennes dans quelle ville ou dans quelle famille j'ai grandi et tout ça. Comme ce gars-là qui essaie de trouver une explication. Mais arrive un moment où Dieu nous parle, et là, notre réaction à ce que Dieu nous demande va changer la donne complètement. On s'en va sur une route, sur un chemin qui va nous amener. Et comment tout ça s'est conclu dans la vie de cet homme-là? Aussitôt, cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et marcha. Aussitôt, il retrouva la santé et son lit et marcha. Un peu plus loin dans le texte, depuis Jésus le trouva dans le temple, un peu plus tard, il lui dit, « Voici, tu as été rétabli, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Maintenant, c'est un petit détail dans ce texte-là, vous le relirez dans ce chapitre 5 de l'Évangile de Jean. Dès que cet homme est guéri et qu'il s'en va, il est interpellé par les pharisiens qui se posent la question parce que Jésus n'aurait pas dû le guérir et tout ça. Mais lui ne sait même pas que c'est Jésus qui l'a guéri. Vous voyez comment il était un peu retourné sur lui-même. Il ne sait même pas que c'est Jésus qui est devant lui. Mais là, à partir du verset 14 et 15, là, il annonce que c'est Jésus. C'est vraiment Jésus qui l'avait guéri. Parce que c'est qui t'a guéri? Je ne sais pas, mais il y a un homme qui était là qui a passé. En réalité, ça, sur quoi je veux insister, et je conclue sur cette dernière pensée. On ne connaît pas l'histoire du gars. On ne sait pas à quoi il fait allusion lorsque Jésus lui dit « Ne pêche plus de peur que tu aies quelque chose de pire. » Je ne sais pas à quoi il fait allusion. Puis on n'en fait pas une doctrine. Mais pour moi, ça m'interpelle sur le fait que maintenant que tu es rétabli, ne retourne plus en arrière. Ne retourne pas dans tes vieilles conduites. Ne répète pas les gestes, les agissements, les comportements que tu as faits qui t'ont amené dans cette direction-là. Vous êtes d'accord avec moi? Encore une fois, on n'est pas passif dans la vie, là. On n'est pas comme sur une voie ferrée où on s'en va dans une direction et qu'on n'a aucun choix, là. C'est plus l'image d'un chemin dans lequel on prend des décisions, on fait des choix. Je tourne à gauche, je tourne à droite, je fais ceci, je fais cela. Alors souvent, évidemment, on se retrouve les pieds dans les plats parce qu'on n'a jamais tiré des leçons de ce qui s'est passé dans le passé. Ne pêche plus, OK, de peur que tu aies quelque chose de pire. Là, tu t'en es sorti, là. OK, tu t'en es sorti, là. Ne retourne pas en arrière. Il y a quelques années de cela, c'est un bon moment de cela, parce que je n'étais pas dans la même ville où j'étais à l'actuel, il y a un homme qui vient me voir. Sa femme l'a quitté. Et là, il est complètement, non seulement attristé, mais il est abattu et tout cela. Et c'est un homme, c'est un gars de bâtiment, donc un gars costaud et tout ça. Et là, il me dit, encore une fois, il se positionne un peu comme victime. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais... Oui. Et là, j'ai fait une chose que je n'ai jamais fait depuis. Je lui ai dit, écoute, laisse-moi le téléphone de ta femme, je vais l'appeler. Ce que je fais jamais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais que j'ai appelé sa femme, je l'ai encouragé à lui donner une autre chance. OK? Et vous savez quoi? Elle a accepté. OK, c'est bon, il est prêt à être suivi, je vais lui donner une autre chance. Donc, j'ai commencé un moment avec lui. Mais vous savez, il y a des gens qu'on sent qui nous entendent, mais qui ne nous écoutent pas. Vous me suivez? Vous le faites avec vos enfants, vos ados, on leur parle, ils écoutent pas, ils entendent, ouais, mais ça ne pénètre pas. Et donc, je continue quelques mois avec lui, puis ça s'arrête. Et un an plus tard, vous vous doutez de ce qui est arrivé. Il vient me revoir, triste parce que sa femme l'a quitté une deuxième fois. OK? Et là, je lui dis, non, je ne rappellerai pas ta femme. Tu as eu ta chance, tu as eu un an pour établir ta vie. Où étais-tu dans ta tête? Où étais-tu dans ton cœur? C'était hors norme. C'était pas normal que ta femme t'accepte une première fois de revenir. Ça arrive rarement là, dans ce genre. Parce que quand quelqu'un prend la décision de se séparer, là, ça fait longtemps que c'est mûri. Hein? Ça, c'est pas une décision spontanée ou impulsive. Hein? Ça fait longtemps que ça trotte dans son esprit. Disant, un jour, je vais en avoir à le bol. Un jour, je vais te quitter. Mais un jour, je te l'ai dit, ma patience a des limites. Puis paf, quand ça arrive, il y a absolument très peu de chances d'un retour potentiel. Mais le gars est passé à côté de tout cela. J'ai jamais eu de nouvelles de lui depuis ce temps-là. Est-ce que vous me suivez dans tout cela? Et souvent, c'est juste une démonstration de ce qui se trempe trop souvent dans le cœur humain. Et heureusement, je sais, on ne connaît pas la suite de l'histoire. Est-ce que cet homme qui avait été impotent, paralysé pendant 38 ans, a compris le dernier message de Jésus à son égard? J'espère que oui, l'histoire ne le dit pas. Mais quand même, le texte mentionne que cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri et donne gloire à Jésus pour l'œuvre qu'il avait fait. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Est-ce que je peux vous demander de vous lever, s'il vous plaît, à votre place? Peut-être demander aux musiciens de se rapprocher, de revenir. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est moi. Jouez tout doucement. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Gardez les yeux fermés quelques instants. Je crois que le Saint-Esprit peut interpeller certaines personnes ici ce matin. Vous êtes évidemment, bien sûr, pas paralysé physiquement, pas alité, comme cet homme. Mais quelque part, il y a des choses dans votre cœur qui font en sorte que vous êtes habitué à votre état, habitué à ne pas changer, habitué à ce que les choses ne changent pas. Mais je crois que Dieu, ce matin, veut vous amener dans une autre direction, à faire autre chose, à agir, à réagir différemment de ce que vous avez fait de par le passé. Et pendant qu'on va chanter un chant, avant que je puisse aller vers la prière avec vous, je demande d'ouvrir très grand vos cœurs. Laissez Dieu vous parler. Laissez Saint-Esprit vous parler dans vos cœurs. Mettez en lumière des choses. Et là, comme je l'ai mentionné plus tôt, Dieu s'exprime. C'est un Dieu qui se révèle. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui se révèle. Il se révèle par sa parole, mais il se révèle aussi à nos cœurs par la présence de son Esprit à l'intérieur de nous. Mais restez sensible à cela. Restez sensible à cela parce qu'il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre condition. Il s'agit peut-être de vos relations, peut-être même de votre mariage, de votre famille, peu importe la situation auquel vous avez à faire face. Mais ce matin, écoutez Dieu vous parler. Entendez Dieu vous parler. Et écoutez-le. Alléluia, Jésus. Tu peux aller. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es
Alléluia,
là.
Jésus.
Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Chantons-le encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras.
Alléluia. Gardons les yeux fermés, gardez votre tête penchée quelques instants. Oui, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu des miracles. Jésus a fait un miracle ce jour-là, mais il a fait ce miracle en réaction à cet homme qui était dans une condition désespérée, désespérante. Jésus savait ce qui se passait, mais ce n'est pas tant le fait de ce que Jésus voulait pour lui autant que ce que lui voulait pour sa propre condition. Et c'est l'enjeu ce matin pour certains d'entre vous. Que voulez-vous juste? Que veux-tu que je fasse? Veux-tu être rétabli? Veux-tu que ta situation change? Qu'est-ce que tu veux juste? Et au moment où vous entendez ma voix, simplement dans votre cœur, répondez à cette question au fur et à mesure que le Saint-Esprit fait cette légère pression sur votre conscience, sur votre cœur, en disant, que veux-tu que je fasse pour toi? Nous savons, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est ici en ce moment. Et il s'intéresse à notre condition. Il ne veut pas que les choses restent stagnantes. Il ne veut pas que nous restions passifs face à notre condition, comme si la vie, c'était de se laisser porter par un courant qui nous amène dans une direction contraire à ce que Dieu veut pour chacun de nous. Jésus est venu afin que les brebis aient la vie. La vie en abondance, c'est une vie transformée, rétablie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, par la présence de ton esprit en ce lieu, par la présence de ton esprit dans la vie de chaque personne ici, Seigneur, je prie que tu te manifestes, Seigneur. Je prie qu'un jet de lumière jaillisse dans leur vie intérieure en comprenant « Voici ce que je dois faire maintenant. Voici comment je dois agir pour que les choses commencent à changer. Le chemin dans lequel je dois marcher pour que le miracle se produise, à la fois dans mon cœur, dans ma vie, dans mes comportements, dans ma transformation, mais aussi, Seigneur, dans mes relations, Seigneur. Je veux que mon mariage devienne ce que toi, tu veux qu'il soit, mais pour ça, je vais devoir changer, être transformé. Seigneur, aide-moi à devenir ce que toi tu veux que je sois pour que je puisse faire ce que toi tu veux que je fasse et que je puisse avoir en retour le résultat que tu veux pour ma propre vie. Seigneur, Seigneur, pose ta main. Il y a des choses que toi seul peux faire, Seigneur. La conviction de ton esprit, Seigneur, dépasse les convictions humaines avec des paroles humaines pour convaincre les gens, Seigneur. Et je prie que tu fasses ce travail maintenant dans leur vie, qu'ils ressortent de ce lieu aujourd'hui en se disant, Seigneur, j'ai compris. J'ai compris la leçon. J'ai des choses que je dois faire dans ma vie pour te voir agir, pour voir le dénouement, pour voir le rétablissement de toute situation, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, confirme toutes choses et glorifie-toi en toutes choses dans ce qui prendra place dans chacun de leur vie. Seigneur, sois honoré et sois glorifié pour l'œuvre que tu fais. C'est en ton nom précieux que j'ai prié. Tous ensemble, nous disons amen, amen et amen. Votre amen n'était pas très convaincant, hein, n'est-ce pas? Okay. Que Dieu vous bénisse abondamment. Juste deux petites choses en terminant. Permettez, venez me voir un peu, comme Mathieu a mentionné à la table. Je n'ai pas 200 exemplaires, mais j'ai quelques exemplaires parce que je suis en plein milieu de mon voyage. Venez voir si vous avez à cœur vraiment d'être transformé, que les choses changent dans votre vie, que vous participez à ce travail que Dieu veut faire dans votre vie. Venez me voir à la table. Je vais demander au celui du PowerPoint de juste... Peux-tu mettre le code QR? C'est fait? C'est là? OK, je ne le voyais pas, non. En ce moment, juste pour votre conseil, le slogan de mon ministère, c'est des solutions pour la vie. OK? Je propose toujours des solutions. En ce moment... Sur la chaîne YouTube, il y a un peu plus d'une centaine de vidéos, de petits clips vidéo qui durent 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes sur plein de situations dans la vie. OK? Si cela vous intéresse, puis c'est gratuit tout ça, flashez simplement ce petit code QR, vous allez rentrer dans un formulaire. Prenez un moment pour remplir le formulaire et vous allez recevoir de l'information au travers de tout ce qui se produit à l'heure actuelle et puis c'est votre propre bénéfice. Je veux voir chaque croyant s'épanouit dans la vie, résoudre ses problèmes, réaliser pleinement ce que Dieu a pour eux. Et pour cela, on a encore une fois, je l'ai mentionné dans ce message ce matin, on est participant à tout cela. Dieu, sa volonté est clairement exprimée. La véritable question, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu me demande et ce que Dieu me dit, tout simplement. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et bon dimanche.
Est-ce qu'on peut remercier Denis ici, s'il vous plaît? Merci. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Est-ce qu'on peut l'applaudir, l'acclamer, celui qui est le roi des rois? Merci beaucoup. Waouh! Ce qui est bon, c'est qu'on n'a pas une certaine musique dans la tête, on a la musique du ciel dans le cœur, l'amour de Dieu dans le cœur. Il y a un premier pas qui est tout à fait pratique à faire. Si vous avez été interpellé par ce qui vient d'être partagé, il y a besoin d'aller un petit peu plus loin. On est une équipe d'écoute et prière, des personnes qui sont là, prêtes à vous écouter et même prier avec vous, peut-être même orientées selon le besoin qui serait le vôtre. Donc n'hésitez pas, à ma gauche, à votre droite, dans un instant, un espace écoute et prière. Vous allez être accueillis, vous allez être aimés, vous allez être entendus et c'est un premier pas qui peut vraiment être bénéfique pour la suite de votre parcours. L'espace accueil, le stand, tout est là. On vous souhaite une bonne fin de matinée, un bon dimanche. À vous aussi qui êtes en ligne. Est-ce qu'on peut juste encore une dernière fois remercier le Seigneur? Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement fidèle. Un bon retour à chacune et à chacun. Que Dieu vous bénisse.